Last and least, l'émission qui invite un invité, qui invite son invité, vous accueille dans la dernière heure du premier jour de la semaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons en parler. Elle règle son compte aux personnes blindées de pépettes. Mais avant d'écrire sur les riches, Véronique Mougin a fait l'inverse. Elle s'est intéressée aux ultra-pauvres. Vous savez, qu'ils soient femmes avec moins de 600 euros mensuels, qu'ils soient SDF ou bien en famille sans domicile, Véronique Mougin s'est livrée à un vertigineux travail d'enquêtrice. Nous allons également en parler. Oui, je vous le disais, last but not least, c'est la dernière conduite de la saison avant l'habituelle venue de la grille d'été, samedi prochain dans vos postes. Christiane Alain Favre a participé à la préparation de cette heure, Marie-Annick Rimbaud va veiller à sa bonne diffusion, Jean-Michel Montu a concocté la bande son et c'est Michel Bézikian qui ce soir tient la barre du véhicule conduite accompagnée. Nous sommes en direct, Véronique Mougin nous présente son invité dans maintenant une dizaine de minutes. Soyez toutes et tous les bienvenus.
Conduite accompagnée avec Mathias De Guel sur France Inter.
Vous êtes Georges ?
Je le suis, monsieur.
Tant mieux. Bienvenue aux Vénières.
Merci, monsieur.
Je suppose que cette jeune personne est votre fille ?
Suzanne, pour vous servir, monsieur.
Vous avez vos certificats ?
Parfaitement, madame. Non,
écoutez, mais rien ne presse plus tard.
Ben, mes enfants, il a une gueule folle, hein ?
Tout nouveau, tout beau. Bon,
enfin.
Moi, avec lui, j'aurais toujours peur de me tromper de fourchette. Oui, allez, filles.
Ils avaient tellement peur que vous ne restiez pas qu'au lieu de vous mettre sous les toits, ils vous ont mis ici.
C'est parfait. Il y a beaucoup de monde à dîner.
8 couverts. Il y a monsieur Danoni, puis sa dame.
L'armateur.
Puis, oh, vous savez, il y a de l'argent là-dedans. Ça rapporte les canons. En tout cas, c'est du beau monde, puis ça vibre. Je retourne à mon turbo. Hein.
C'est ça.
Et vous changez bien les couverts après chaque service.
Ça va de soi, madame.
Alors, pourquoi mettez-vous des porte-couteaux?
Il y a du poisson, madame.
Ah, mais j'avais oublié. Ou je déteste le poisson. Le matin, je prends du thé.
Bien, madame.
Du citron.
Pardon.
Je vous gêne, peut-être.
Aussi peu, madame. Pardon.
Alors, le matin, vous montez le thé à 8h30, sauf le dimanche.
Bien, madame.
Le dimanche, 8h.
Parfait, madame.
Et le soir, ma tisane de genépi avec mon anémophénicole.
À quelle heure, madame?
Je sonnerai.
Excusez-moi, madame, on a sonné.
Mmh. Il est trop bien, celui-là. Ça doit cacher quelque chose.
Ça doit cacher quelque chose. Et c'est vrai qu'entre le personnel de maison et les maîtres de maison, il y a le dit, mais il y a surtout le non-dit. Vous venez d'entendre un extrait du film Monsieur, réalisé en 1964 par Jean-Paul Chanois, avec les jeunes voix, les avez-vous reconnus, de Jean Gabin, Philippe Noiret, Mireille Darc et de Gaby Morlaix, bien évidemment. Bonsoir Véronique Mougin.
Bonsoir Mathias.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, merci.
Le 6 mai paraissait votre nouveau roman. Il s'intitule « Pour vous servir » et il est paru aux éditions Flammarion. Alors des dits et des non-dits, tout est à lire dans « Pour vous servir », l'histoire d'une véritable héroïne, oui, on peut l'appeler comme ça, une véritable héroïne des temps modernes. Elle se nomme Françoise Joyeux, elle est gouvernante. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de la gouvernante au sens de la personne qui gouverne. Ici, la gouvernante n'a qu'un sceptre, c'est son plumeau. Ainsi, de chez Monsieur Douglas McFinley and Madame, jusqu'à chez Monsieur Aimé Paquette, en passant par chez Madame la princesse Anne-Adélaïde Échard de Jouvedin-Mazardière, ou bien par chez Sa Majesté le prince Mohamed Albin Alpoussa Farad. Ouh, Françoise va nous raconter à la première personne ses tribulations proches parfois de l'esclavagisme et son initiation auprès de ces riches, bien plus riches que les plus riches. Est-ce que ça vous convient, Véronique Mougin, si je dis que votre roman est aussi un récit initiatique ?
Ah oui, ça me convient très très bien, c'est tout à fait exact. Bah, c'est un apprentissage, hein. Françoise, elle n'a pas eu la vocation dès sa prime enfance de devenir domestique, hein. Elle a eu des rêves comme tout le monde très très différents d'autonomie, de liberté, d'ascension sociale. Elle a eu un restaurant avec son mari et puis accident de la vie, elle se retrouve comme ça à devoir se reconvertir et elle se retrouve propulsée dans un château tenu par des aristocrates extrêmement distingués et légèrement psychorigide. Donc effectivement, elle va apprendre le métier, voilà, avec toutes ses illusions d'abord, puis ses désillusions.
Alors on peut s'étonner que le livre soit ceint du bandeau roman, tant les rencontres entre ces familles richissimes et françoises sont ancrées dans le réel. À vrai dire, nous sommes parfois bien plus proches du récit à portée sociologique que du romanesque à proprement dit. Vous en convenez de la portée socio, voire ethno, de votre roman ?
Oui, alors le bouquin est né de la manière suivante. En fait, moi je suis journaliste.
Ah non, mais attendez, ça c'est ma prochaine question.
Oh, j'ai pas le droit de répondre. Alors bon, bah j'arrête. Bah,
si vous avez le droit de répondre à la prochaine, mais pas avant la précédente.
D'accord. Alors oui. Alors c'est comme ça ici. Bon bah d'accord.
Ah mais on marche à la trique ici. Hein.
Pardon. Ah c'est une. À la baguette. Alors comme Françoise.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a le maître et puis le petit personnel.
Non, donc oui, alors la dimension tout est socio et ethno. Tout n'est pas
vrai
dans le bouquin, dans ce roman, mais tout est réaliste. C'est-à-dire des princesses qui ont une gouvernante pour la maison et une autre gouvernante mieux payée pour leurs chiens, ça existe. Des duchesses de machin chose qui fantasment d'aller faire des courses en poussant un caddie parce qu'elles ne l'ont jamais fait, etc. Très cocasse, ça existe aussi. Voilà, des notaires très très intégristes qui s'enchaînent au barreau de l'entrée du salon de l'érotisme, ça existe aussi. Donc il y a des choses que je n'ai pas pu inventer, et puis tout le reste, je l'ai inventé pour servir au mieux le sujet, donc avec des personnages très fantasques, pour être libre de réinventer des personnages, des scènes pour rendre la chose très divertissante.
Et je le confirme, et pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, la lecture de Pour vous servir, les 360 pages sont extrêmement addictives, et addictives pour la crédibilité de tous les détails qui égayent ou plombent, c'est selon, la vie quotidienne des riches employeurs de Françoise. D'où ma question sur votre dispositif de travail, nous y arrivons. J'imagine qu'il vous a fallu collecter des anecdotes, des indices, comme un policier pourrait le faire pour mener son enquête. Est-ce que c'est comme ça que vous avez procédé ? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain pour mener à bien vos investigations ?
Oui. Alors effectivement, j'ai rencontré donc dans le cadre de cette première enquête que j'avais réalisée pour le mensuel Marie-Claire. L'idée, c'était un petit peu d'inverser le processus habituel, c'est-à-dire de demander à ceux qui servent leur opinion sur ce qui sont servis. Donc faire parler les gens de maison et non pas les riches qui les emploient. Donc ça s'appelait le monde des riches vu de la chambre de bonne. Donc là j'avais effectivement interviewé de nombreuses gouvernantes, des placeurs également, et j'avais récolté énormément d'anecdotes véritablement drôles, inimaginables. Voilà, et je m'étais dit, toutes ces femmes qui sont payées pour se taire finalement, puisqu'elles signent des clauses de confidentialité, puisqu'elles signent des contrats d'invisibilité, elles ont, quand on leur laisse la parole, des choses vraiment très très intéressantes à dire, très drôles, et surtout qui nous parlent de la France telle qu'elle est aujourd'hui. C'est ça qui m'a intéressée également, c'est de faire un petit cheval de Troie, en fait, de prendre ce sujet qui est quand même drôle, qui est léger, etc., mais qui traite de véritables sujets, et gratiner ces sujets, voilà, les collusions argent-pouvoir, le droit de cuissage, et surtout, évidemment, et avant tout, les inégalités sociales. Tout ça, on peut le traiter avec cette narratrice idéale, justement, qui est la gouvernante, parce qu'elle n'est plus vraiment du peuple, mais elle l'a été, et elle a une visibilité énorme, comme une loupe sur ce monde des ultra-riches. Donc voilà, c'était le sujet idéal pour moi, qui regroupait mon désir de faire parler des gens qui n'ont jamais accès à la parole publique, et très peu à l'espace public, et puis de traiter des sujets de société sur les inégalités sociales avec le rire, quoi.
Et vous le faites sans avoir jamais abandonné votre job de journaliste, finalement. Vous nous parlez de Marie-Claire, mais c'est vrai qu'on sent la patte du journaliste au milieu de cette aventure romanesque.
Il y a des anecdotes qu'on n'aurait pas pu inventer,
voilà,
qui dépassent largement la fiction.
La vie de Françoise dans le roman, c'est 10 employeurs. Autant dire que Pour vous servir raconte toute une vie, la longueur de toute une vie entièrement vouée aux autres, ce qui n'empêche pas Françoise d'avoir un mari, Michel, un fils adolescent, Nicolas. Est-ce que c'était important ce contre-champ, en somme, de pouvoir passer de « tout est permis » à « rien n'est possible » ?
Alors moi, ce qui m'importait dans le fait de pour moi, c'est aussi un portrait de femme, en fait, ce bouquin. Donc, j'avais envie de montrer que cette femme, elle est ligotée finalement par certains carcans au départ. Elle est dans l'admiration de son mari. Elle est dans la fascination des riches, dans l'admiration du million, comme disait Octave Mirbeau dans le Journal d'une femme de chambre. Elle admire ses patrons, elle admire son mari. Finalement, ce sont des carcans qui la ligotent. Elle pense très peu elle-même, beaucoup aux autres. Et j'avais envie que, au fil du bouquin, elle se déprenne un petit peu de tous ces carcans pour penser à elle-même, savoir ce qui la rend heureuse, etc. Et donc ça me plaisait aussi de faire un portrait de femme entre ses 25-30 ans et ses 50-55 ans, voilà, de la suivre un petit peu. Et je pense que ça permet aussi de s'identifier et ça permet d'écouter sa voix, parce que c'est ça qui m'importait aussi, qu'elle ait une voix, et que par cette prise de parole dans le bouquin, elle se crée un espace de liberté, d'ironie, et voilà, qu'elle reprenne un petit peu pouvoir sur sa vie, pouvoir qu'elle a très peu dans l'exercice de son travail finalement.
Je l'ai rapidement évoqué sur le générique de l'émission, avant d'écrire Pour vous servir, vous avez été l'auteur de récits aux titres particulièrement évocateurs, des titres comme Femmes en galère, enquête sur celles qui vivent avec moins de 600 euros par mois, Les SDF, idées reçues, ou encore Papa, maman, la rue et moi, quelle vie de famille pour les sans domicile. Voilà, on l'aura compris, vous balayez un spectre finalement assez large qui va de l'étude du très pauvre à celle du très riche avec votre dernier roman. Vous pouvez nous l'expliquer, ce qui vous fascine dans ces enquêtes et ces sujets qui sont tous marqués socialement?
Alors pour moi, le dernier bouquin, donc le roman, c'est pas vraiment un livre sur les très riches, c'est plutôt un livre sur les gens de maison.
Et moi, je vais à l'encontre de ce que vous dites, parce que franchement...
Alors pour moi, le vrai fil rouge, c'est de faire accéder à une parole, à une visibilité des gens qui n'en ont pas. Donc voilà, ça me gratifie de la même manière que ça me plaît de mettre en lumière ces vies, ces caractères de personnes sans domicile. Ça me plaisait de faire d'une gouvernante qui n'a pas le droit à la parole, justement, une véritable héroïne. Donc après, c'est vrai que dans ce roman-là, il y a le côté plus croustillant, plus divertissant, etc., des portraits de riches, et je me suis bien amusée à le faire. Mais pour moi, il y a un vrai fil conducteur entre tous les bouquins. Et je pense que ce qui fait que je m'intéresse à ce genre de sujet, c'est peut-être tout simplement l'impression de me rendre utile. Je pense que j'ai l'impression d'être utile en parlant de ces sujets-là,
parce que... Je crois savoir qu'il ne fait pas partie du classement Forbes, qui recense les plus grosses fortunes mondiales. Que cela ne vous empêche pas, Véronique Mougin, de nous donner son nom. Dites-nous, qui avez-vous choisi comme partenaire radiophonique pour cette conduite accompagnée?
Alors, c'est Olivier Calmel, musicien, compositeur, pianiste de grand talent.
Il fallait que l'écriture soit mal assurée, que le papier soit surdosé en parfum à la violette pour que la lettre touche au cœur son destinataire. Une passade romantique qui a sa version chantée. Nous écoutons Love Letters par Métronomie. À tout de suite sur France Inter.
Thank you.
23h31, les lettres d'amour de Métronomie. La journaliste romancière Véronique Mougin est l'invitée principale de cette conduite et elle vient de nous l'annoncer. C'est un pianiste, un compositeur, un producteur, un superviseur musical, un instrumentiste, un orchestrateur qui est son invité d'ici à minuit. Bonsoir Olivier Calmel.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Olivier Calmel. Nous allons ensemble parler, je ne sais pas pourquoi je redis bonsoir, je relis la ligne, ça commence comme ça puis après on sucre les fraises. Olivier Calmel, plus sérieusement, je me reprends. Nous allons parler ensemble de votre profession, mais maintenant j'aimerais vous entendre revenir sur les propos qu'a tenus Véronique dans la première partie de l'émission et peut-être, pourquoi pas, nous dire tout le bien que vous pensez de son roman « Pour vous servir ».
Alors moi je l'ai lu, j'en ai même lu des bouts, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais des bouts un petit peu avant, j'avais le droit de regarder un petit peu. J'ai eu cette chance et j'ai trouvé immédiatement une fraîcheur, une vivacité immédiate et évidemment comme tout le monde, dès les premières pages, des anecdotes assez incroyables, un rythme assez effréné, mais toujours j'ai retrouvé ce que je connaissais de son travail, c'est-à-dire en filigrane les questions sur les classes sociales, sur les accidents de la vie, sur donc je l'ai trouvé touchant et puis très drôle en même temps, donc c'est assez c'est un roman fiction très documenté, très très riche et qui se dévore très très vite.
Ouais, c'est vrai. Et sur la hiérarchisation des rapports aussi, c'est extrêmement prégnant et très présent dans le livre. Vous concernant, Olivier Calmel, vous concernant, je l'ai dit, vous êtes musicien, vous avez notamment expérimenté l'improvisation jazz, et cette formation musicale est venue à vous par l'étude d'un instrument, le hautbois. Alors vous allez nous éclairer. Pourquoi avoir choisi le hautbois, cet instrument si peu conventionnel et, je rajoute moi, si peu sexy?
Ah, vous êtes dur là. Non, le hautbois est un instrument très sexy quand il est très bien joué, mais heureusement pour les hautboïstes, j'ai arrêté avant, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, mais j'aimais profondément cet instrument. En vérité, je vais vous donner la vraie clé, mon père était directeur de conservatoire et je voulais absolument faire de la trompette, il n'y avait plus de place en classe de trompette, il m'a mis au hautbois, voilà, ça a été ma première expérience de hautbois, mais après j'ai vraiment aimé ça. C'est un très bel instrument, c'est un instrument extrêmement difficile, et j'étais pas assez bon, tout simplement. Donc je me suis tourné rapidement vers d'autres voies.
Vous l'avez évoqué à l'instant, vous êtes issu d'une famille de musiciens, votre père Roger était compositeur et, vous nous l'avez dit, directeur de conservatoire. Est-ce que le fait d'avoir baigné dans ce milieu imprégné de musique ne vous a pas d'une certaine façon empêché tout autodidactisme? Dans quelle mesure vous n'êtes pas seulement constitué parce que votre père vous a légué?
Alors justement non, parce qu'il m'a laissé une marge de manœuvre absolument incroyable. Et dès l'âge de 11-12 ans, j'apprenais l'harmonie un peu tout seul dans mon coin, alors qu'il était professeur d'harmonie, et le piano également. Et très rapidement, j'ai composé mes premières mélodies, vraiment tout seul dans mon coin, avant qu'il me reprenne par la main en me disant « Bon, écoute, si tu veux faire quelque chose de sérieux à un moment donné, il va falloir quand même s'y mettre. Viens en classe. » Mais non, c'était vraiment, il m'a laissé faire. À 15 ans, je faisais des groupes de rock, des choses pas possibles dans la cave. Il écoutait ça avec beaucoup de d'intérêt, un peu éloigné, mais d'intérêt quand même.
Et d'indulgence.
Et d'indulgence surtout, voilà. Et puis, plus tard, il m'a dit, bon, écoute, là, quand même, il y a quelque chose à creuser, il faudrait peut-être que tu t'y mettes.
C'est ce que vous entendez quand vous dites que vous avez eu un accès empirique à la musique? C'est ce que vous venez d'évoquer?
Ah, tout à fait.
C'est ouais, ça.
C'est exactement ça. Il m'a laissé une marge de manœuvre très large.
Véronique Mougin, vous aviez, j'imagine, l'embarras du choix. Pourtant, celui-ci s'est arrêté sur Olivier Calmel. Expliquez-nous ce qui l'a motivé, ce choix. Pourquoi lui et pas un autre?
Mais d'abord, c'est son talent, hein. c'est les musiques qu'il crée. C'est ce qui est intéressant aussi avec Olivier Calmel, je vais t'appeler quand même par ton nom de famille, c'est que c'est un mélangeur d'influences en fait. Hein. Il fait autant du jazz que du classique. Il mélange un petit peu ça, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Il met un petit peu de jazz dans le classique et inversement. Et puis aussi, c'est un touche-à-tout en fait. Hein. Il peut créer, on le voit, un concerto, une symphonie et puis des musiques de films. Ses centres d'intérêt le poussent un petit peu à développer un petit peu tout ça. Et puis c'est ça qui me rapproche aussi de lui. Hein. Outre ce que tu dis sur ton hérédité, et ça me parle aussi beaucoup, venant d'une famille où on écrit, moi-même, il s'inspire beaucoup de sujets de société pour créer sa musique. Ça peut être des sujets scientifiques dont il va certainement nous parler. Il a fait, il me semble, une œuvre qui rendait hommage en fait aux travailleurs d'une ONG Sahel, hein, tu vas le raconter aussi. Ça me plaît avec ce travail d'enquête hein, que tu peux raconter également. Voilà, pour t'inspirer, tu vas sur le terrain, tu rencontres les gens, etc. Donc, il me semble qu'il y a des lignes qu'on peut tirer entre ton travail et le mien, et ça me parle beaucoup.
Justement, on peut peut-être approfondir ces lignes, ces passerelles que vous citez en ce moment. Quelle analogie vous faites, vous, finalement, entre écriture littéraire et écriture musicale? Vous pensez que les deux sont tenus par les mêmes ressorts?
Alors, je connais très peu, c'est ça aussi qui me fascine dans le travail d'Olivier, c'est que moi, je connais très, très peu la musique, je n'en ai pas fait moi-même, moi, j'en écoute vraiment comme tout le monde, mais pas de manière approfondie. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes, comment tu travailles, c'est justement cette curiosité qui pousse à creuser un sujet et puis la façon dont ça va faire œuvre, en fait, avec des notes. Et le fait qu'à la base, il y a quand même des rencontres humaines, des émotions que tu ressens, etc., des colères et tout ça. Et tu en fais, toi, des symphonies, des œuvres musicales, etc. Et puis moi, je vais en faire des articles, des livres et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, ce processus de création qui finalement est un petit peu au départ commun et que je n'imaginais pas en fait. Je n'imaginais pas que tu doives mener l'enquête en fait. Et ce qui m'amuse, c'est voilà, l'inspiration, ce n'est pas les muses qui nous tombent dessus, etc. C'est les rencontres, c'est le travail, c'est la connaissance qu'on a et qu'on creuse d'un sujet. Et puis après, comment on la met en forme.
Et justement, à propos de processus de création, Olivier Calmel, vous pouvez nous le dire. Est-ce que ça peut se passer comme ça s'est passé avec la pénicilline ou la tarte tatin, peut-il arriver à un compositeur de réussir une œuvre par inadvertance, fortuitement, par erreur?
Je pense que oui, vraiment, sincèrement.
Alors, je suis curieux de vous entendre affiner votre propos.
Mais je m'en doutais un peu. En fait, je pense que l'artisanat est indispensable. On ne peut pas faire un bon musicien comme dans beaucoup d'autres domaines si on n'a pas de l'artisanat pour ce pourquoi on crée. Si on décide d'écrire des symphonies, il faut avoir de l'artisanat de l'orchestre, il faut avoir voilà. Mais il y a des choses qui arrivent un petit peu par hasard. Je sais pas comment l'expliquer, mais parfois c'est pas les muses du génie ou c'est pas un dieu qui nous parle. Enfin moi en tout cas je l'analyse pas comme ça, mais parfois des moments où on est un peu plus en apesanteur et un peu plus en écoute intérieure. Moi, j'appelle ça l'écoute intérieure, c'est-à-dire en écoute de soi-même, tout simplement, et de ce qui nous fait vibrer à l'instant T, quoi.
C'est ce qu'on appelle l'inspiration ou pas ?
Peut-être, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, c'est écouter suffisamment soi-même pour être capable de retranscrire une émotion avec les moyens qu'on a à sa disposition à un instant donné et de le faire de manière à la fois le plus direct par les moyens techniques et en même temps le plus sincère de manière à pouvoir le retransmettre un jour après, quoi, même si on n'est plus dans la même émotion.
Ce pourrait être une chanson qui commence par « C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons ». Or, lui, il a fait commencer sa chanson par « Tout le monde est là sous la tente blanche, tailleur et cravate habillent ce dimanche ». À n'en point douter donc, et Thomas Dutronc nous le confirme, on peut très bien être allongé dans l'herbe sans pour autant avoir deux trous rouges au côté droit.
Tout le monde est là. Table étanche et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. Y'a des fleurs beaucoup, des bouquets de fleurs. Cinquième, quelqu'un tient debout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. L'après-midi danse, un tango curé, le soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans.
Conduite accompagnée sur France Inter.
L'ultime conduite accompagnée de l'année, puisque je vous le rappelle, dès samedi prochain, c'est avec la grille d'été que vous avez rendez-vous sur France Inter. Pour l'instant, je cours balayer, récurer, frotter, aspirer, épousseter, astiquer, briquer, cirer, décaper, décrasser, savonner, ravaler, nettoyer, décrotter et déterger les locaux de France Inter. Quand on liste le nombre de synonymes qui sont tous là dédiés au verbe laver, quand on pense au temps nécessaire pour les apprendre, on se dit qu'effectivement, le métier de gouvernante peut être assimilé à une forme d'esclavage moderne. Bien, bien, bien. Pendant que je brique, vous allez commencer, Véronique Mougin, vous posez la question de votre choix à votre invité, Olivier Calmel. Nous vous écoutons.
Oui, alors tout à l'heure, tu parlais de ce que tu devais à ton père. Et justement, j'ai entendu dire, tu vas nous expliquer ça, parce que je crois que tu travailles actuellement sur une œuvre inspirée des découvertes autour du génome, etc. J'ai entendu dire qu'il y avait un gène qui expliquait l'appétence, enfin l'oreille musicale ou l'appétence à faire de la musique ou à en écouter. Donc j'aimerais savoir si ça existe vraiment, et puis si tu l'as, si tu penses que tu l'as, moi je pense que oui évidemment, et si tes enfants à toi n'avaient pas ce gène, qu'est-ce que ça te ferait, voilà. Sachant que tu viens d'une famille de musiciens, imaginons que les deux enfants ne font pas de musique, ne fassent pas de musique, comment tu réagirais?
Alors, merci de cette question.
12 questions en une en fait, vas-y ouais. Maintenant, débrouille-toi.
Donc on m'a commandé une pièce qui parle de génome. Le but, donc, ça a été commandé par le SIB de Genève, une institution scientifique, et c'est un quatuor à cordes, et on m'a demandé de traiter du génome, et en particulier d'un gène qui s'appelle UGT8 et qui est supposé effectivement rentrer en condition, en tout cas supposé être responsable en partie de notre compréhension de l'harmonie, c'est-à-dire de la compréhension des accords en musique. C'est supposé. On a un certain nombre de. Donc je crois que c'est des Coréens qui ont mis ça en exergue il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Et donc partant de cette supposition-là, on a élaboré un plan pour ce quatuor. Bon. Pour moi, ça reste une supposition. Je pense que la compréhension de la musique et les capacités musicales sont plutôt du domaine clairement de l'acquis, quoi. Clairement de l'environnement, de l'acquis, très peu l'inné. Enfin, je pense. Hein. Après, c'est ma conviction personnelle. J'en ai pas de preuves. En tout cas, on est quand même parti de cette idée-là et très rapidement, donc, on a isolé le gène. On a pris les bases du gène, on l'a traduit en musique, je les ai traduits en musique, et j'ai utilisé donc cette séquence, un petit peu comme une série, sauf que c'est pas la musique dodécaphonique, mais un petit peu comme une série, pour créer et écrire la totalité du quatuor, qui a été créé par des musiciens de Genève.
Et une séquence de gène, c'est pas très répétitif ?
Si, absolument. Mais après, on utilise des rotations mathématiques pour faire en sorte que ce soit moins répétitif.
Des algorithmes, presque.
Oui, c'est quasiment des algorithmes. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'expliquais ça à mes amis musiciens, ils me disaient « mais ça va donner un truc complètement invraisemblable, on va pas te retrouver là-dedans, toi qui écris plutôt une musique consonante. » Et déjà, elle est pas toujours consonante, mais surtout, le travail du musicien, c'est pas de prendre le matériau brut et de le jeter comme ça en pâture. C'est évidemment de faire un autre travail, de manière à ce que ça soit son travail avant tout.
Après cette réponse d'une fluidité tout aquatique, je ne doute pas que votre question à votre hôte Véronique Mougin n'en sera que plus éloquente. Nous vous écoutons, Olivier Calmel.
Alors Véronique Mougin, j'ai vraiment très envie de savoir s'il serait envisageable qu'à l'avenir tu t'orientes progressivement vers le roman de fiction pure, sans études, sans enquête préalable, sans travail journalistique véritablement, mais toujours dans cette quête qui te caractérise, qui est si chère, de la fable sociale, de la question des privilèges et des inégalités sociales.
Eh bien oui. Oui, en fait, le bouquin inspiré de la vie de véritables gens de maison, ça a été le pont idéal pour moi, en fait, qui pensait ne pas avoir d'imagination et ne pas m'intéresser au roman, pour passer justement de l'enquête pure au roman. Et oui, c'est comme si on avait ouvert un robinet. J'ai eu beaucoup de plaisir à inventer des personnages, beaucoup de joie, en fait, à faire ce travail-là. Et j'ai évidemment envie de continuer. Alors, à ceci près, que je pense que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la réalité sociale, des petites gens, je pense. Donc ça sera toujours présent dans mon travail. Mais il me semble que je vais me laisser beaucoup plus de liberté pour l'invention et dans le prochain opus.
J'ai une bonne, très bonne place pour vous.
C'est vous la parisienne ?
Oui, c'est moi. D'abord, il n'y a de bonne place nulle part.
Il n'y a pas de mauvaise place.
Il n'y a que de mauvais maîtres.
Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses avec de la conduite.
Couchez !
Avec de l'inconduite, vous voulez dire ?
Ça dépend des façons de voir.
Madame.
Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette.
Merci, madame.
Vous en changerez tout de suite.
Oui, madame.
Allons, monsieur.
Allons.
Jusqu'à ça, Célestine.
Encore un mot de plus, et cette fois, je dis tout à madame.
Célestine.
D'abord, ma petite, au prioré, on ne dirait pas une seule femme de chambre. Quand c'est pour madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrosse.
À l'avenir, je vous le prie de ne pas rester si longtemps dehors.
Est-ce que comment se magasiner celle-là?
Qu'est-ce que vous dites?
Je ne dis rien, madame.
Célestine!
Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié?
Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens.
Apportez-moi une aiguille.
Apportez-moi du fil.
Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous.
Conduite accompagnée avec Mathias De Gael sur France Inter.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Léa Seydoux, entre autres. C'était un extrait du film de Benoît Jacquot sorti cette année. C'était Le journal d'une femme de chambre, d'après Octave Mirbeau. Véronique Mougin, puisqu'il est dit quelque part que les extrêmes finissent toujours par se rencontrer pour mieux se ressembler, est-ce que vous en avez tiré une conclusion quelconque à force d'avoir côtoyé et les pauvres d'un côté et les riches de l'autre? En quoi ces deux extrémités finissent par se ressembler? Je vous pose la question parce que vous décrivez et vous écrivez que le Gotha préfère l'ombre, un peu comme le SDF qui pourrait peut-être vivre mieux s'il est caché.
Ou, alors, ce que je peux dire, c'est que... Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je peux dire que le salon et l'office, en fait, ce sont les hôtels particuliers, finalement, c'est un des seuls lieux où les deux extrêmes de l'échelle sociale se rejoignent, en effet. Donc déjà, c'est un lieu riche en émotions. C'est ce qui m'intéressait également dans le bouquin, hein. C'est cette relation, justement, entre ceux qui servent et ceux qui sont servis, qui est très, très riche, qui est très propice aux sentiments extrêmes, quoi. On s'admire, on s'aime, on a de la tendresse, on a de l'agacement mutuel. Voilà, un énervement de part et d'autre, on a de l'empathie ou on n'en a pas, on a de la haine parfois, etc. Donc ça c'était éminemment romanesque et ça m'intéressait de traiter ça. Après, il y a une deuxième chose peut-être pour répondre à votre question, c'est que parfois, et Samir Beau le disait déjà, hein, le mode de vie et de pensée des maîtres transpire sur les valets finalement. Et ce que moi j'ai pu noter par des interviews de gouvernantes, etc., c'est que parfois il y a un véritable snobisme des gens de maison qui finissent par adopter les codes.
Comme un mimétisme ?
Une sorte de mimétisme dans le mode de pensée, un certain élitisme. C'est vrai que là, vous avez décrit récurer, nettoyer, laver, être gouvernante. Il y a ça, évidemment, mais il n'y a pas que ça. On est un rouage extrêmement important du standing d'une maison. On fait partie intégrante de la vitrine. Et finalement, on peut rencontrer des majordomes ou des gouvernantes aussi snobs, voire même plus snobs que leur patron. Est-ce que c'est, ouais. On l'a noté dans l'affaire Bettencourt, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qu'on reprochait pas mal à François-Marie Bagnier, ce que reprochait en tout cas le majordome de Bettencourt, c'était avant tout, plus que les détournements d'argent, c'était sa vulgarité.
Ouais.
Donc il y a effectivement, il peut y avoir un snobisme des employés.
Des employés. Olivier Calmel, avant d'écouter un morceau de votre tonneau, de votre composition, juste une question qui m'a traversé comme ça l'hémisphère droit. Quand vous composez, vous suivez votre inspiration, on a parlé un peu tout à l'heure de l'inspiration sans qu'on sache vraiment bien la définir, vous suivez votre inspiration ou bien votre conscience?
L'inspiration, c'est très important, il faut s'écouter. Ouais. Il faut s'écouter. Et puis, avant ma conscience, le commanditaire a aussi des exigences, en fait.
Un cahier des charges ?
Un cahier des charges, une sorte de cahier des charges. Pour les films, c'est évident, et c'est très strict. On est au service d'un réalisateur. Et puis, même en musique contemporaine, en musique de concert, il y a toujours des contraintes. Et les contraintes, c'est important. C'est même assez beau, les contraintes, en fait. J'aime bien ça. Voilà. Et puis, à la fin, c'est la conscience qui tranche, évidemment. La conscience professionnelle, le travail bien fait, l'artisanat, plus que l'art. Parce que l'art, ça veut rien dire. L'artisanat, j'y tiens beaucoup.
Mm-hmm. Alors, le morceau s'intitule Submergé. C'est une de vos compositions, je le disais, Olivier Calmel. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot. C'est une musique pour documentaire, un doc de Rémy Dupont sur les inondations qui ont eu lieu dans le Var.
De Draguignan, c'est ça, tout c'est à ça, fait. Hein. Bah, écoutez, j'ai été contacté par France 3 Côte d'Azur pour qui produit parfois des documentaires pour celui-là. Et il y avait des contraintes fortes, budgétaires notamment. Et voilà, donc c'est écrit pour Quatuor à cordes, piano et percussion.
Il y a une notion de recherche d'identité et d'identité parfaite quand on compose une musique de film ou de doc.
Ah oui, bien sûr, mais pas qu'en musique de film. Mais oui, j'en ai parlé d'ailleurs lors d'une petite interview à propos d'un concert qui avait eu au Grand Rex. Et je parlais d'identité musicale, effectivement, et l'identité parfaite. Par exemple, je jouais au piano les premières notes de Un homme, une femme. Et je disais qu'avec trois notes, on était capable de reconnaître tout de suite n'importe qui. Voilà. Et je pense que la quête du musicien, c'est ça. Enfin, pas que du musicien, mais c'est ça, oui.
C'est beau parce que ça semble simple, c'est sublime. Submergé, morceau signé par vous, Olivier Calmel. Vous êtes avec nous en invité, je le rappelle, de la journaliste romancière Véronique Mougin. Véronique, j'aimerais de deux mots que nous revenions sur vos ouvrages, ceux qui ont précédé pour vous servir votre dernier roman. Donc, je ne rappelle pas de quoi traiter les trois livres précédents. Disons que vous nous parliez de la vie de ceux qui n'ont pas d'argent, contrairement au dernier roman, qui est la vie de ceux qui ont beaucoup, qui sont très fortunés. À défaut d'avoir pu changer le monde, est-ce que vous pensez qu'écrire sur la misère sociale peut changer les mentalités de vos lecteurs ?
Oui, je crois ça. Je pense que c'est aussi pour ça que je le fais. Et c'est plus qu'une croyance. Je pense que ça se vérifie. Hein. Il me semble que plus on... Par exemple, on a écrit un livre avec un ami photographe, Pascal Bachelet. On a suivi pendant 2 ans des personnes souvent en famille, et qui n'avaient pas de logement, en se posant la question de savoir comment on pouvait garder une famille quand on n'avait pas de toit. Donc c'était de longs portraits, on les a suivis pendant 2 ans, on a vraiment raconté d'où venaient ces personnes, ce qu'ils avaient vécu, comment ils souffraient ou pas, etc., de leur situation, quel impact ça avait sur leur relation familiale. Bon, la réalité, c'est que, par exemple, les pères célibataires ne pouvaient pas, faute de logement, accueillir leurs enfants, etc. Donc en mettant en lumière tout ce passé, toute cette masse d'émotions, je pense qu'on fait durablement changer la vision qu'on peut porter, qu'on peut avoir des personnes sans domicile. Oui, donc je pense que des livres, effectivement, peuvent changer le réel et les opinions, bien sûr. Pour un autre livre, on avait organisé avec le Secours catholique une série de conférences-débats dans toute la France, en fait. Et on faisait, donc moi, j'intervenais comme journaliste en avançant les chiffres, etc. Combien de personnes sans domicile en France. Et puis on faisait témoigner des personnes sans domicile. Et ça aussi, ça participe à faire changer les mentalités. C'est-à-dire, à partir du moment où une personne sans domicile prend la parole pour se raconter, le rapport de force est régulé, équilibré, et c'est ça qui m'intéresse.
Et avant, en amont, bien avant que vous ne trempiez la plume dans la plaie, dans cette écriture, est-ce que vous avez sous-estimé ou pas l'ampleur des dégâts et l'intrication de tous ces mots? En d'autres termes, est-ce que vous aviez confiance d'entrer de plein pied dans un univers aussi, j'allais dire, médiéval, maintenant, au début du 21e siècle?
Ça m'a fait évoluer, bien sûr. Comme tout le monde, je devais certainement avoir des préjugés, peut-être moins que la moyenne des Français, parce que je m'intéresse depuis longtemps à ce sujet. Mais effectivement, on voit que les problématiques sont intriquées. On voit que finalement, comme on peut le dire un peu de manière populaire, il pleut toujours là où c'est mouillé. C'est-à-dire que non seulement les personnes n'ont pas toit, mais s'ils n'ont pas toit, c'est parce que avant ils n'avaient pas de famille. Par exemple, juste pour donner un chiffre, dans la rue, parmi les personnes qui sont véritablement sur des cartons dehors, il y a 10 fois plus de personnes qui ont été placées dans l'enfance qu'en population générale. Donc effectivement, ce côté massif des problématiques qui s'entremêlent, ça effectivement, je l'avais peut-être sous-estimé, et c'est intéressant de mettre ça en lumière. Hein.
Oui, en exergue. Olivier Calmel, j'ai une question de départ, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Pourquoi, en quoi, selon vous, la musique est indispensable à l'équilibre de nos vies? Ça, c'est une question de départ. Hein.
Je vais pas vous citer Nietzsche parce que tout le monde la connaît. Je dirais juste que c'est peut-être le lien le plus court entre une personne et une émotion. Voilà, je dirais que c'est ça. Le meilleur moyen de toucher les gens, je pense, tout simplement, de créer une émotion.
Et ça nous sera confirmé par Nathalie Piollet qui vient d'entrer dans le studio. Oui. Madame Véronique Mougin, monsieur Olivier Calmel, je vous libère. Je rappelle que votre nouveau récit, Véronique Mougin, est un roman. Il s'intitule « Pour vous servir ». Il est paru chez Flammarion et il narre les tribulations d'une gouvernante chez les ultra-riches. Bonne soirée à vous deux, bonne semaine et j'allais rajouter « Bel été » à vous deux.
Merci.
Chacun de
Merci
ses pas beaucoup. Ressemble à un mélange, celui du battement d'ailes du papillon et celui du cormoran. Elle vient d'entrer dans le studio 521. C'est dire que l'heure de l'album de minuit approche. Salut Nathalie.
Salut, j'aime bien le cormoran. C'est drôle que je vous inspire un cormoran.
Oui.
On ne parle pas assez du cormoran, on n'en parle assez sur cette antenne.
Mais vous êtes un corps vivant.
Tout à fait. Et nos corps vivants, on va les secouer, les bouger dans quelques minutes. Mathias, avec Major Lazer, vous avez au moins... Oui, vous connaissez.
Bien
sûr. J'ai même pas besoin de vous expliquer. Bah, c'est un peu la même chose. Dans quelques minutes, je ne vous expliquerai pas, chers auditeurs. On va juste danser tous ensemble sur cet album qui contient le tube de l'été. Eh oui, on parle beaucoup de l'été, là. Vous sentez l'été qui approche, Mathias?
Petitement.
C'est la dernière fois qu'on se fait des bisous comme ça à l'antenne. Bon vent, mon cormoran à moi. Moi. Salut.
Je secoue ma feuille pour te saluer, Nathalie.
Moi aussi, bébé. Salut, bébé.
Salut, bébé. C'est bientôt les vacances, vous l'avez dit. Nous n'avons pas failli. Nous avons perpétué cette noble attitude. Nous avons abandonné sur une aire d'autoroute le lundi. Et je peux l'affirmer aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Lundi est mort. Vive mardi.